Bonjour à tous. Je vous apporte les salutations de l'Église protestante de Villeneuve-d'Ascq, donc du Triolo. Et je me permettrai, si vous êtes d'accord, de leur transmettre les vôtres dimanche prochain. Merci en tout cas pour votre invitation, pour ce privilège d'apporter la parole. Et j'aimerais ce matin partager à propos d'un événement grandiose qui est vraiment indicible pratiquement, qui témoigne de l'immense amour de notre Dieu et de son immense humilité et qui consiste en cet acte qu'il a fait en s'humiliant jusqu'à laver les pieds de ses disciples. Et c'est le passage, bien sûr, qui se trouve dans le chapitre 13 de l'Évangile de Jean. Vous savez que les chapitres 13 à 17, ces cinq chapitres, sont les dernières paroles du Seigneur à ses disciples. Ils ont donc une importance particulière. Jésus sait depuis longtemps ce qu'il attend. Il l'a prophétisé plusieurs fois. Il ne s'en va pas faire un pique-nique. Il sait toute la douleur, la souffrance qu'il attend. Et il montre cet amour envers ses disciples en les rassemblant avant son départ. Et nous sommes au repas de la Pâque, autour de ces éléments, de la scène. Les disciples sont entrés, les uns après les autres, dans cette chambre haute. Et autour du pain, du vin, ils sont là, allongés, prêts pour festoyer. Pour eux, il n'y a pas de souci. Ils ont vu le maître acclamé. Hosanna, fils de David. Une grande partie de Jérusalem était là pour l'accueillir. C'était la joie. C'était le début de la gloire pour eux. Et dans son évangile, Luc nous dit au chapitre 22 que déjà ils se chamaillaient un petit peu parce qu'ils se disputaient qui allait être le premier dans ce royaume qui venait. Il pensait que le Seigneur allait prendre le pouvoir, enfin, après ces 3 années de ministère où il a fallu le suivre un peu partout. Ça n'a pas toujours été facile. Nous voyons que les préoccupations de Jésus ne sont pas du tout les mêmes. Jésus sait qu'il va devoir expier, être cet agneau qui va être sacrifié, c'est la Pâque. Jésus est seul. En plus, il sait très bien que l'un de ses disciples va le trahir, ce qui augmente sa douleur, ce compagnon depuis 3 ans qu'il a choisi, va tourner le talon contre lui et le vendre. Pour 30 pièces d'argent, quelle déception, même s'il le savait. Jésus est aussi rassasié de l'opposition des gens qui n'ont pas compris son message. Et au chapitre 12, nous voyons que l'apôtre Jean dit que malgré tant de miracles qu'il avait fait en leur présence, ils ne croyaient pas en lui, afin que s'accomplisse la parole qu'Ésaïe le prophète a prononcée. Seigneur, qui a cru à notre prédication et à qui le bras du Seigneur a-t-il été révélé? Cette prophétie du serviteur souffrant dans Ésaïe 53. Je vais lire les 17 versets de ce chapitre 13. Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Pendant le souper, alors que le diable avait déjà mis dans le cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer, Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se ceignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était saint. Il vint donc à Simon-Pierre, et Pierre lui dit, « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds ?» Jésus lui répondit, « Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. » Pierre lui dit, « Non, jamais tu ne me laveras les pieds. » Jésus lui répondit, « Si je ne te lave, tu n'auras pas de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit, « Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. » Jésus lui dit, « Celui qui est baigné n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Et vous êtes purs, mais non pas tous. » Car il connaissait celui qui allait le livrer. C'est pourquoi il dit, « Vous n'êtes pas tous purs. » Après qu'il leur eut lavé les pieds et qu'il eut pris ses vêtements, il se remit à table et leur dit, « Comprenez-vous ce que je vous ai fait ? Vous m'appelez maître et seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le seigneur et le maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. » Le lavement des pieds. Malheureusement, c'est quelque chose qui nous est un peu étranger. C'est pour nous un peu théorique. Mais bon, on peut s'imaginer un peu. Les pieds des apôtres étaient sales. Et dans la culture de l'époque, c'était un esclave ou un serviteur qui se chargeait de cette tâche de laver les pieds, parce que les gens étaient pieds nus quand ils rentraient dans la maison, ils enlevaient leurs sandalettes. Et là, il n'y avait pas de serviteurs, il n'y avait pas d'esclaves, il n'y avait que les 12. Et comme je vous l'ai dit, leur attention et leur discussion, c'était qui d'entre eux était le plus grand. Il n'y a sans doute aucun qui était prêt à prendre la place du plus petit pour laver les pieds des autres. Alors il faut s'imaginer, et ça c'est difficile aussi, le Seigneur qui fait ce geste théâtral de prendre cette place du plus petit et d'accomplir cette tâche. Nous nous trouvons exactement à l'opposé de ce que nous voyons au Jardin d'Éden, où l'homme et la femme ont voulu arracher ce fruit pour devenir comme Dieu, de connaître. Là, nous avons Dieu qui descend et qui devient homme. Et l'apôtre Paul nous dit dans l'Épître aux Philippiens qu'il s'est humilié, qu'il s'est vidé de sa divinité, au point non seulement de devenir homme, mais de devenir aussi serviteur. Et non seulement serviteur, de devenir aussi martyr, de donner sa vie en rançon pour nos péchés. En faisant ce geste de se dépouiller, de s'abaisser. En quelque sorte, Jésus déjà mime ce qu'il va accomplir quelques heures plus tard, où on va lui arracher ses vêtements, le fouetter, le frapper, le cracher dessus et le crucifier. Alors au milieu de tout ça, nous avons heureusement, dans le groupe, il y a toujours un larron qui est un peu verbal, l'apôtre Pierre, ce sanguin qui parle plus vite que son ombre. Et c'est bien qu'il y ait des gens comme ça dans les groupes, parce que ça permet de faire sortir des choses, puis ça détend aussi. On a envie de rigoler quand on voit Pierre, comment il intervient et comment il s'oppose à Jésus, sous prétexte d'humilité. « Non, non, tu ne vas pas me laver, etc. » Et Jésus, bon pédagogue, au lieu d'être désarçonné par cette tempête verbale de Pierre, va profiter de donner un enseignement. Et je pense que pour nous qui enseignons, c'est un bon exemple, parce que souvent on choisit, tiens, je vais dire ça à tel moment, je vais dire ça à tel moment, et puis il y a des tas d'opportunités qui se présentent à nous, spontanées d'enseigner, qu'on rate, parce qu'on ne rebondit pas sur des choses comme ça. En tout cas, Jésus, là, va rebondir sur les interventions de son disciple. Et il va lui rappeler que Pierre, comme les 12, sauf Judas, sont purs. Pourquoi sont-ils purs? Parce qu'ils ont été lavés par le bain de la régénération que Jésus allait accomplir quelques heures plus tard. Ce baptême de souffrance que Jésus a vécu sur la croix, son sang qui a coulé, comme ça nous a été rappelé ce matin dans ses paroles, dans les prières qui ont été dites. Jésus a tout accompli. Pour tous les saints, de l'Ancien comme du Nouveau Testament, et ceux qui viendraient après, comme nous aujourd'hui. Tout est accompli. C'est sa dernière parole à la croix. Ce lavage, si Dieu nous a élus, il est pour nous. Et quelques versets plus loin, au chapitre 15, verset 3, Jean dit déjà, enfin c'est Jésus qui parle, hein, il rapporte cette parole, « Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. » Tout est accompli, mais c'est notre adhésion à la parole de Jésus qui fait que c'est valable. Sauf Judas. Et bon, vous connaissez cette comparaison qu'on fait avec le fait qu'on peut recevoir un chèque, mais il faut l'encaisser, sinon c'est un bout de papier qui ne représente rien. Les 11, ils avaient reçu ce chèque et ils l'avaient encaissé. Ils avaient été baptisés par Jean-Baptiste, comme Judas d'ailleurs, mais ils ont cru jusqu'au bout à la parole du Seigneur. Même s'ils ne la comprenaient pas, comme nous l'avons vu tout à l'heure, ils y croyaient. Ils ont adhéré. Ils ont encaissé ce chèque, comme la plupart d'entre nous, même tous, je pense, aujourd'hui, je l'espère, nous l'avons fait. Mais celui qui est lavé a quand même besoin de se laver les pieds. Et Jésus en profite pour rappeler aux disciples que oui, Calvin, est dans son commentaire, parle de la métaphore des pieds, qui sont les parties de notre corps qui touchent le sol, donc qui sont en contact avec le monde. Et donc, par métaphore, c'est notre vie dans le monde. Même si nous sommes régénérés, même si nous sommes purifiés par la foi, il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Eh bien, notre vie dans le monde, il ne faut pas se leurrer, nous salit. Notre nature pécheresse a maintes occasions de refaire surface. Et c'est pourquoi l'apôtre Jean, dans ses épîtres, nous met en garde en disant « Celui qui dit « Je n'ai pas de péché » est un menteur. » Mais si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. J'en viens à l'autre aspect de cette pièce de théâtre que le Seigneur nous présente, qui est l'exemple qu'il nous laisse. Je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. Je pense que c'est le seul passage dans l'Évangile où Jésus mentionne le fait qu'il donne un exemple à suivre. Je pense que c'est donc particulièrement important que nous méditions ce passage et que nous le révisions régulièrement. Je reviens à Calvin. Dans son commentaire, il parle des papistes qui, une fois par an, lavent leurs pieds, lavent les pieds, etc., en public. Et ils se moquent d'eux en disant que le reste de l'année, ils font tout à fait le contraire. Ils sont un peu comme des comédiens qui, sur des tréteaux, font une représentation, mais une fois qu'ils sont descendus, il n'y a plus rien. Alors, que veut dire cet exemple? Bien sûr, ces pieds sales représentent les péchés que nous commettons dans notre marche dans ce monde. Ils représentent aussi peut-être les aspects négatifs de chacun. Nous avons tous nos points forts, nos points faibles, des choses qui sont agréables. Comme disait Pascal, nous n'aimons pas des personnes, nous aimons des qualités. Mais nous n'avons pas que des qualités. Nous avons aussi des défauts. Et ça, c'est plus difficile à supporter, surtout quand on vit en groupe, quand on vit en église, quand on se connaît bien. Et plus on se connaît, plus on connaît pas seulement les qualités, mais surtout l'autre côté, les défauts. Donc, est-ce que nous sommes prêts à passer sur les défauts de nos frères et sœurs, de nos conjoints aussi, nos enfants? Ou est-ce que nous sommes plus intéressés à voir les pailles qui sont dans les yeux des gens sans voir la poutre qui est dans le nôtre, hein, comme le Seigneur le dit? Et puis, bien sûr, ce passage nous rappelle le service, l'engagement. Est-ce que je suis prêt pour ces tâches humbles? On a parlé tout à l'heure du ménage, mais le service de manière générale, quel qu'il soit, que ce soit d'annoncer l'Évangile, que ce soit d'enseigner la parole de Dieu, que ce soit de s'occuper de la musique, des aspects techniques, de tout ce qu'il faut pour faire marcher l'activité de l'Église. Comment je m'engage? Quelle est ma motivation? L'attitude du Seigneur nous reprend. C'est comme une gifle. Qu'est-ce qui me motive? Est-ce que je veux briller devant les autres ou est-ce que je veux vraiment édifier? Être cette pierre qui contribue à l'édification de l'Église, qui se prépare pour être l'épouse de ce Seigneur qui s'est humilié par amour pour nous. Puisse cette scène rester omniprésente dans notre arrière-pensée, dans notre vie, pour que nous puissions servir avec joie et mériter cette couronne de justice et de gloire qui nous attend. Car le Seigneur nous dit, les premiers seront les derniers. Les plus petits seront les plus grands. Il y aura des surprises, mais il n'y aura pas de tristesse. Tout le monde aura sa juste place, car le Seigneur est bon et sa grâce merveilleuse. Je ne sais pas si on pourrait, en conclusion, chanter le 553 dans J'aime. Alors j'ai vu qu'il y avait des problèmes ce matin, je ne veux pas en rajouter. Tu es venu jusqu'à nous. On l'a ? C'est super ça. Voilà. Parce que je pense que les paroles sont un peu la conclusion de ce message. On peut le chanter dans un esprit de prière. Amen.